Tous. Nous avons donc cet après-midi le texte de l'Épître aux Éphésiens, texte comme l'a signalé le lecteur de ce passage, dans sa Bible il est indiqué « vie ancienne, vie nouvelle ». Et j'aimerais, avant de commencer, simplement vous demander de lire ou de m'écouter lire le verset 20 du chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, où il est dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Et ce verset est la clé, une des clés de cet Épître aux Éphésiens, puisque c'est un verset qui nous explique que Dieu peut tout faire en nous. Et souvent, nous faisons des tas de choses pour plaire à Dieu, mais on a comme le sentiment qu'on a un mal fou à être transformé nous-mêmes intérieurement, à vivre ce texte qui nous a été lu par notre frère il y a quelques secondes. Et j'aimerais simplement rappeler que Dieu dit qu'il est capable d'agir dans nos vies comme à l'extérieur de nos vies, avec puissance et au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Par voie de conséquence, vous et moi, nous sommes appelés, par la grâce de Dieu, à pouvoir vivre ces enseignements concrets, pratiques, qui nous sont indiqués dans ce chapitre 4, des versets 17 à 31, et ensuite dans le chapitre suivant. Une précision... Le thème central de l'Épître aux Éphésiens, c'est l'unité de l'Église. Et l'unité de l'Église en rapport avec l'unité, c'est-à-dire l'amour qui existe dans la Sainte Trinité. Et en permanence, dans le texte de l'Épître aux Éphésiens, le développement théologique de l'apôtre Paul se repose sur les relations qui existent entre les trois personnes de la Trinité, donc sur la personne même de Dieu. Et on ne peut pas imaginer, d'ailleurs ce serait même un blasphème que d'en parler, on ne peut pas imaginer qu'il y ait division dans les trois personnes de la Trinité. Et toute l'épître tourne autour de cette vérité théologique pour nous inviter à un comportement pratique. Alors nous avons été sauvés par le Christ, reçus une nouvelle nature, et maintenant l'apôtre va comparer la vie des païens à la vie des chrétiens. Alors c'est un diagnostic sur les païens qui peut paraître sévère, extrêmement dur, parfois même on peut se dire, mais enfin quand même, tous les non-chrétiens ne se comportent pas comme c'est indiqué dans ce texte, mais n'oublions pas que ce que Dieu... souligne avec force, c'est la nature pécheresse. Et une personne, même qui se comporte honnêtement, comme ça existe dans le monde, tout le monde ne se roule pas, ne se vautre pas dans le péché, mais une personne qui a des valeurs morales, mais qui ne connaît pas personnellement Jésus-Christ, n'oublions pas que par nature, le fait de ne pas connaître le Christ, de ne pas vouloir se soumettre au Christ, parce que le problème, ce n'est pas tellement de croire ou de ne pas croire en Dieu. Dans le fond, quelqu'un de religieux croit en Dieu, puisqu'il est religieux. Mais il ne veut pas se soumettre à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et n'oublions pas que quelqu'un qui se comporte correctement, mais qui résiste à la conversion, qui résiste à la soumission devant le Christ, à reconnaître qu'il est pécheur et que le Christ est son sauveur, eh bien c'est un esprit de rébellion. Et si ce n'est pas le cas, si la personne dit « moi je ne crois pas », alors là c'est un esprit d'incrédulité qui est aussi vilipendé dans les Saintes Écritures. Parce qu'après tout, les deux attitudes sont décrites en opposition avec Dieu. Alors quand on lit ce diagnostic sur la nature humaine, sur ce que la Bible appelle les païens, n'oublions pas que, oui, il y a des hommes et des femmes qui font n'importe quoi, et on le voit tout de suite, on le constate. Et puis, il y en a d'autres où les difficultés, l'opposition à Dieu se présentent avec beaucoup plus de subtilité. Et vous avez pu remarquer dans le texte qu'il est dit, ayant perdu tout sentiment, en verset 19, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. Et là, oui, il y a des gens qui se comportent mal, mais d'autres qui se comportent bien. Mais chose étonnante, jointe à la cupidité. Et pour faire beaucoup d'évangélisation, rencontrer pas mal de gens, je rencontre des gens très bien, honorables, avec une conscience éclairée, avec des valeurs morales. Mais quand on aborde le problème de l'argent, l'amour de l'argent apparaît. Et cet amour de l'argent est dénoncé dans les Saintes Écritures. C'est ce qui s'appelle la cupidité. Alors, voyez, ne nous laissons pas impressionner par les apparences. Chaque personne, même religieuse, qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, est donc dans une situation d'intelligence, une ignorance de leur intelligence, et donc ça découle à un endurcissement du cœur. Maintenant, pour les chrétiens, il est dit que nous, mais vous, verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la volonté, à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et là encore, il y a une progression, de la même manière qu'il y a une progression dans le discernement de ceux qui s'opposent à Dieu et du comportement païen, il y a un discernement dans l'évolution de la sainteté chez le chrétien. Et vous-même, nous-mêmes, vous et moi avec vous, je me regarde dans ma vie chrétienne, et il y a des choses que je comprends petit à petit. C'est vrai que je suis né de nouveau depuis 43 ans, et vous aussi vous êtes né de nouveau, enfin je le souhaite pour la plupart d'entre vous. Mais entre la nouvelle naissance, le jour de notre nouvelle naissance, où nous sommes devenus une nouvelle création en Jésus-Christ, une nouvelle créature, eh bien nous avons vu que progressivement, nous entrons dans cet état, dans cette réalité de nouvelle créature. Il y a des chrétiens qui me disent, mais enfin je ne comprends pas, j'ai encore des faiblesses, j'ai encore des fragilités, comme si la nouvelle naissance, le jour de la conversion, tout allait être résolu, et que d'un seul coup on était bien sain et plus de problèmes. Mais pas du tout. Le chrétien est amené à progresser, et dans cette instruction que le Saint-Esprit nous donne, et les Saintes Écritures, expliquées par les hommes que Dieu a choisis pour exposer les Écritures, nous commençons à comprendre petit à petit tout ce que Dieu nous a donné et tout le pouvoir qui est en nous pour refuser le mal, pour nous dépouiller de nos anciennes façons de vivre, pour revêtir les nouvelles. Et ne serait-ce que pour arriver à la conversion, il a bien fallu que l'on change notre regard sur beaucoup de choses. Quand je pense à la façon dont Dieu s'y est pris pour m'amener à lui, j'ai d'abord commencé à changer petit à petit mon regard sur Dieu, sur ce que la Bible appelle le péché, parce que moi je ne me sentais pas plus pécheur que n'importe qui d'autre. Et j'ai donc dû changer progressivement, mes pensées ont été changées pour m'amener à la repentance, ensuite à la conversion. Et c'est la même chose quand on est né de nouveau. Petit à petit, Dieu change. Pendant notre marche chrétienne, il change notre regard sur beaucoup de choses. Il change nos sentiments, nos désirs, il les change par rapport à des choses vis-à-vis desquelles nous étions comme des esclaves avant notre conversion. Et petit à petit, Dieu véritablement nous transforme, et il le fait d'une façon assez curieuse, parce qu'il y a tellement de façons chez Dieu d'agir, c'est assez étonnant. Des fois, il nous accorde une délivrance, un désintérêt pour des choses qui nous passionnaient. Et au jour même de notre conversion, on n'est plus intéressé, on se dit bon. Puis il y a d'autres choses, on est toujours comme passionné. On n'arrive pas à résister. Notre intelligence nous dit non, il ne faut pas, le Dieu te dit que c'est inutile. Et notre chair, dans le sens de l'aspect païen de notre nature, hein, déchu, pardon, et nous dit mais j'en ai envie. Et ce combat est assez particulier. Et parfois, Dieu va nous délivrer avec une certaine facilité, et d'autres fois, Dieu va nous placer face à des situations, et il va nous dire, ben voilà, qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, agis. Et pourquoi est-ce que Dieu nous rend participants à ce travail de sanctification ? Lorsque la Bible affirme que c'est Dieu qui fait tout, et en même temps il demande notre participation. Mais c'est parce que dans la pédagogie de Dieu, il veut nous associer, en renouvelant notre intelligence, il nous associe à l'accomplissement de sa volonté, du coup à la transformation à son image, et donc au fait que plus nous avançons avec le Seigneur, plus nous nous identifions à la nouvelle nature qui nous habite. Vous imaginez que quand même Dieu, c'est le spécialiste de l'incarnation. Dans le sens que Dieu le Fils est incarné pour changer, venir sur la croix, mourir pour nos péchés, ressusciter et remonter dans les cieux. C'est incarné. Dieu a pris un corps semblable au nôtre. Et voilà que pour nous transformer, Dieu vient habiter en nous. Donc il s'incarne en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme vous le savez. Et Dieu, c'est véritablement le spécialiste de l'incarnation. Et pour chacun d'entre nous qui sommes nés de nouveau, nous pouvons tout espérer et tout croire. Parce que Dieu va nous rendre semblables à son image et nous faire progresser jusqu'à ce que nous paraissions devant lui dans la gloire. Et alors il dit, chose surprenante, au verset 25, il dit « C'est pourquoi renoncer au mensonge ?» Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Le mensonge est cité en premier, et il semblerait que naturellement, nous soyons, vous et moi, portés au mensonge, pour justement se sortir de certaines situations. Et après tout, le mensonge, c'est le premier péché décrit dans les Saintes Écritures, dans le Jardin d'Éden. Satan a menti à Adam et Ève. Puis après, ils ont menti tous les deux devant Dieu. Et c'est la première des choses que l'ennemi va mettre sous nos pas, qu'il va présenter à chacun d'entre nous. C'est le mensonge. Et parfois, on ment parce qu'on a peur. Parfois, on ment parce qu'on est surpris. Parfois, on ment parce qu'on est gêné. Parfois, on ment parce qu'on a envie de quelque chose. Et si on dit la vérité, on ne l'obtiendra pas. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles nous sommes amenés à mentir. Et là, l'apôtre s'adresse à des chrétiens et dit « Renoncez, renoncez au mensonge. » Et même si le mensonge chez vous n'est pas quelque chose d'usuel, hein, je connais des chrétiens qui, dans leur témoignage, disent « Moi, j'étais un grand menteur. » Et tout le monde ne passe pas son temps à mentir, hein. Mais quand il est question de renoncer, ça peut s'adresser évidemment à des gens qui pratiquaient le mensonge, mais aussi à ceux qui le pratiquent peu souvent, mais qui se trouvent parfois coincés. Et dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, cette nouvelle humanité, il nous est demandé de renoncer au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ensuite, il nous est demandé, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Alors, le mensonge et la colère sont des choses qui nous touchent assez facilement. Enfin, peut-être plus les Français que vous qui êtes d'origine vietnamienne. On a dû vous apprendre à vous tenir. On vous a éduqué. Mais je ne sais pas si vous connaissez la colère. Vous connaissez la colère, vous ? Non. Ah, c'est bon, c'est merveilleux. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne m'a pas fait vietnamien. Et c'est un grand regret pour moi. Mais si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est une expression hébraïque qu'on retrouve dans le psaume 4, verset 5, où il est dit « Tremblez et ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. » Parce que oui, il y a des raisons de se mettre en colère dans la vie, hein. Et cette expression hébraïque, dans le fond, elle permet et limite la colère plutôt qu'elle ne l'ordonne. Parce qu'évidemment, dans le texte grec, c'est « si vous vous mettez en colère ». Ça veut dire que quelque part, oui, on peut se mettre en colère. Comme si Dieu prenait en compte cette possibilité. Et oui, il la prend en compte. Mais il donne un sage conseil. Il dit que votre colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Quoi qu'il en soit, Et on le voit dans les Saintes Écritures, au travers de deux mots grecs différents. Il y a une juste colère et il y a une mauvaise colère. Et quand il est question de la colère de Dieu, ce n'est pas le même mot, comme vous le savez, qui est utilisé dans le texte en langue originale. Quoi qu'il en soit, ce verset nous oblige à admettre qu'il existe une colère chrétienne, si vous vous mettez en colère. Et malheureusement, trop peu de chrétiens ressentent ou expriment ce sentiment face au péché qui se manifeste de plus en plus dans notre société. Je vous l'ai déjà dit ici, ma maman qui va sur 98 ans, elle se met en colère quand elle voit aux journaux télévisés, là. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que cette façon de vivre? Parce que, bon, à son âge, hein, elle a toujours ce ressort intérieur. Et moi, je la regarde, et je vous l'ai déjà dit ici, je l'admire pour ça. Une capacité à s'indigner. Il y a une colère qui s'appelle de l'indignation. On est indigné. Et souvent, on n'est pas assez indigné dans notre monde. Quand on discute avec nos amis chrétiens ou autres, parfois, on devrait marquer quand même de dire « mais c'est insupportable ces choses-là ». Et c'est sûr que quand on commence à émettre ils appellent plus ça un jugement, ils appellent ça une notion de valeur. Alors, quand on commence à émettre une notion de valeur ou un jugement sur un comportement, mais les gens réagissent. Hein, ils vous disent « mais qui es-tu toi pour te permettre de… » Vous voyez, mais franchement, le chrétien, il est là en tant que lumière pour dire « mais ça c'est bien et ça c'est pas bien ». Et notre société refuse de plus en plus ce genre d'attitude. Et il y a des chrétiens qui excluent totalement la colère de leur expérience. Ils ne veulent pas se mettre en colère dans le sens de la noble colère. Hein. Et du coup, on contredit Dieu. Et ils se font du tort et contribuent à la propagation du mal, quand on ne dit pas les choses. Vous imaginez théologiquement, c'est drôlement intéressant de voir comment Dieu se présente dans la Bible. C'est le Dieu d'amour, de miséricorde, de sainteté. Et regardez comment Dieu s'y prend pour sauver quelqu'un. Dieu va attirer le pécheur à lui, et en même temps il va le retenir pour lui faire comprendre la notion de péché. Vous avez remarqué cette pédagogie dans les Saintes Écritures. Dieu attire, hein, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais que de quelle manière est-ce que Dieu attire les gens à lui? En parlant d'amour et en parlant de sainteté, en parlant de ses commandements, des interdits, et en parlant de ses promesses et de sa miséricorde. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à la repentance, mais Dieu attire et en même temps Dieu retient, jusqu'à ce que son Saint-Esprit et sa parole puissent expliquer aux païens, celui qui n'est pas encore né de nouveau, puisqu'il est la notion du péché. Et quand on a la notion du péché, à ce moment-là, Dieu lève sa résistance pour nous accueillir en Jésus-Christ quand on demande pardon. Et voyez, en permanence, Dieu, pour nous sauver, nous impose sa sainteté et nous présente son amour en même temps. Et c'est de la même manière que nous devons, nous, en quelque sorte, communiquer avec nos proches, nos collègues de travail ou autres, avec amour, mais en même temps avec vérité, avec sainteté. Et vous savez, on peut dire énormément de choses. Quand on le dit avec amour et quand on s'adresse à l'intelligence et au cœur des personnes, on peut dire beaucoup de choses. Et on peut dire que Dieu n'est pas d'accord avec telle et telle chose. Et là, ce n'est pas de la morale, on n'est pas en train de moraliser les gens. On est en train de leur communiquer la vérité de Dieu pour qu'ils puissent prendre conscience, et d'ailleurs ils le savent déjà. Les attitudes mauvaises, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas des nouveaux, ils reconnaissent. Ils disent oui, c'est vrai, je ne suis pas parfait, etc. Et d'ailleurs, quand on leur fait les mêmes choses qu'ils font aux autres, qu'est-ce qui se passe? Il demande justice. C'est pas juste ce que tu viens de faire. Mais, vous voyez, la notion de vérité est inscrite là. Et le chrétien doit quand même dire les choses avec affection. Et l'Écriture, donc, comme je vous le disais, elle atteste qu'il existe deux types de colère, une colère juste et une colère injuste. Et le verset 31, il énumère la colère parmi les choses à ôter. De toute évidence, il s'agit de la colère injuste. En revanche, en Éphésiens chapitre 5, verset 6, ce passage déclare que la colère de Dieu frappera les rebelles. Et là, on est question d'un autre mot qui, est donc, qui exprime la colère de Dieu, la colère juste. Il existe donc une colère bonne et juste que les enfants de Dieu peuvent apprendre de leur Père céleste et du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que plus on s'approche de Dieu, plus on désire le servir, plus on consacre sa vie au Seigneur, plus on passe du temps à se présenter devant Dieu pour être disponible pour la journée que nous allons vivre, et plus on s'intéresse aux Saintes Écritures et on les lit, plus on devient sensible comme Dieu à ce qui est bien et ce qui est mal. Mais de la même manière que Dieu, on va pouvoir dire les choses avec amour. Mais on va les dire. Il est particulièrement intéressant de noter que l'apôtre y parle de la colère dans une épître qui traite spécialement de la nouvelle humanité, hein, en disant que l'Église est la nouvelle humanité, l'humanité recréée en Christ, et que Dieu a fondé sur le principe de l'amour. Et c'est intéressant de voir dans tout cet exposé de la recréation et de l'amour de Dieu arriver ce phénomène qui s'appelle la colère. Et dans un paragraphe, ce paragraphe que nous lisons, qui est axé sur les relations fraternelles harmonieuses. Il le fait parce que la paix authentique ne se confond pas avec l'apaisement. Il y a des gens qui disent, face à des difficultés qui méritent d'être réglées, des choses qui méritent de venir à la surface et d'être authentiquement réglées devant Dieu, eh bien, il y a des gens qui veulent couvrir tout cela. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a du ressentiment, il y a de l'injustice, ou une absence de justice. Et puis tout ça, ça ronge les victimes, même les victimes chrétiennes. Et puis par moment, boum, ça remonte dans l'Église. D'un seul coup, on se demande qu'est-ce qui se passe, mais c'est parce que la chose a été intériorisée, la justice n'a pas été prononcée, la réconciliation n'a pas pu se faire véritablement. On est passé à côté de ce vers quoi la Bible nous conduit. C'est-à-dire de dire vraiment les choses avec délicatesse, avec amour, mais avec authenticité, pour pouvoir régler les problèmes. Et vous avez des églises, des communautés, des groupes. C'est le problème d'ailleurs des groupes. Je ne parle pas spécifiquement de l'église, mais des groupes en général. Quand on étudie la sociologie et les sciences humaines sur le fonctionnement des groupes, les psychologues disent la même chose. Hélas, la Bible le dit depuis toujours et les gens n'écoutent pas. C'est que la Bible dit, mais et comme les psychologues, si vous voulez être en paix, il faut régler les problèmes. Alors, évidemment, la psychologie, elle n'a pas le Christ. Hein, donc, une fois donné, qui va vous purifier hein, si vous ne connaissez pas le Christ ça, ce sont les limites de la psychologie. Hein. Mais franchement, on a vraiment besoin, parce qu'il s'adresse à cette nouvelle humanité qui est l'Église, à vivre de la sorte. Et en même temps, nous devons nous souvenir que notre état d'homme déchu avec notre tendance à l'emportement et à la vanité. C'est-à-dire, pour autant qu'on est en droit de s'indigner, notre intelligence, notre bon sens, l'expérience de notre vie, notre amour pour Dieu et pour les autres, vont être comme un frein. Pour éviter que notre indignation dépasse certaines limites. C'est pour ça que les Saintes Écritures nous dictent d'être lents à la colère, sachant que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pour cela qu'il y a, par rapport à la colère, il y a trois restrictions qui sont indiquées par rapport à la colère permise. Première restriction, c'est que nous devons nous assurer que notre colère ne soit pas une manifestation de notre orgueil, blessé, d'une rancune, de la malveillance, de l'animosité ou d'un esprit de vengeance. Et on a vraiment besoin de se sonder devant Dieu. Pourquoi suis-je en colère? Pourquoi suis-je indigné? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup j'ai envie de sortir de mes gonds? Il faut être clair devant Dieu et nous-mêmes. Il faut se laisser sonder. Et si véritablement on découvre que nous sommes indignés à cause du mal comme le Seigneur Jésus-Christ était indigné à cause du mal, à cause de la mort, du péché. Alors simplement cette analyse de nous-mêmes, ce que l'on dit en proverbe profane en France, entre autres, tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de t'exprimer. Mais ça se trouve aussi dans le livre des proverbes, j'ai oublié la référence. C'est pas dit de la même manière, mais ça revient au même. C'est de marquer un temps de réflexion avant de sortir d'exprimer ce qu'on veut dire. Il ne faut pas que le soleil se couche, deuxième restriction sur notre colère. Pourquoi ? Parce que l'apôtre, il cherche, avec le Saint-Esprit au travers de l'apôtre, cherche à nous mettre en garde contre les dangers d'entretenir la colère. « Ne vous couchez pas en colère » est un bon principe dont devraient particulièrement bien s'inspirer les gens mariés. Alors, il y a beaucoup de célibataires parmi nous, mais les gens mariés, vous savez de quoi, ce dont je veux parler. Portons attention. Et puis, de ne pas donner accès au diable, c'est le verset 27. Pourquoi ? Parce que le diable aime rôder autour des gens en colère, espère en profiter de leur irritation pour les pousser à la haine ou à la violence et ouvrir une brèche dans la communion fraternelle. Il m'est arrivé de remarquer que des gens qui étaient en colère exprimaient leur colère et puis ne souhaitant pas, enfin on constate qu'ils ne voulaient pas régler les problèmes, et la colère se transforme en amertume, l'amertume en haine, mais des choses invraisemblables. Et quand on revient au point de départ, on découvre quoi ? Parfois, pour un fort pourcentage, un non-désir de se véritablement de se tenir devant Dieu et de se repentir. On trouve un non-contrôle de soi-même, un désir parfois même de vengeance. C'est pour ça que quand le diable voit que quelqu'un est en colère, il va assez souvent se précipiter vers nous pour attiser les choses. C'est pour ça qu'à tout moment, nous devons vraiment nous sonder et nous tenir devant Dieu pour analyser tout cela au regard de la parole et de son Saint-Esprit. Il est dit au lieu de ce que celui qui dérobait ne dérobe plus. On peut traduire la chose ainsi, au lieu de voler, travailler et donner. Et ce qui est très intéressant, c'est que, et je vais m'arrêter là, on doit travailler pour pouvoir donner à ceux qui sont dans le besoin. Le sens dans les Saintes Écritures du travail, c'est recevoir une somme d'argent, mais pour aider ceux qui en ont besoin. Bon, évidemment, pour nourrir sa famille et prendre soin des siens, c'est évident. Hein. Mais il y a au-delà que de nous-mêmes. Et ça vient en contradiction avec la cupidité qui a été citée préalablement. Le chrétien n'est pas cupide. Il va recevoir de bon cœur et avec reconnaissance ce que Dieu lui donne, et pour en faire profiter les autres, en partie. Ce commandement, il a une application beaucoup plus vaste que la simple interdiction de voler de l'argent à son prochain. Il dénonce la fraude fiscale et les fausses déclarations en douane qui privent l'État de ses justes revenus. Il condamne les employeurs qui exploitent leur personnel et les salariés qui ne fournissent pas le travail ou ne donnent pas le temps pour lequel ils sont rétribués. Il y a toutes sortes de façons de voler dans la vie. Hein. Moi, j'ai eu à diriger des services. J'avais un ancien collègue, il ne voulait rien faire. Vous le trouviez toujours assis sur un tabouret, il ne faisait rien. Et un jour, je lui ai dit, il m'a dit, moi, je ne veux rien faire. Alors, je lui ai dit, trouve-toi une place dans un autre service, je te donne 3 mois. Parce que si dans 3 mois, tu n'as pas trouvé à aller dans un autre service, moi, je vais te mettre à la porte du bien. Mais au moins, il était franc. Il m'a dit, je ne veux pas bosser. Mais il ne suffit pas que le voleur cesse de dérober. Il faut encore qu'il apprenne à travailler honnêtement de ses mains et puis qu'il gagne sa vie. Il sera alors capable de subvenir aux besoins de sa famille et encore, en plus, de donner aux nécessiteux. Et il n'y a véritablement que le Seigneur Jésus-Christ qui peut faire d'un malfaiteur ou d'un escroc un bienfaiteur. Alors je m'arrête là à cause du temps. Mais que le Seigneur nous conduise pendant toutes ces jours et ces semaines et toute notre vie à réfléchir à ces choses. Parce qu'on a chanté tout à l'heure le dernier cantique que nous avons interprété ensemble. C'était « Je te donne ma vie, je veux te glorifier », etc. mais ça passe par des choses extrêmement pratiques. Ça n'a rien de superficiel et de... Je trouve pas l'inverse de concret, c'est quoi ? J'ai oublié mon vocabulaire. Abstrait, merci. Il dit ça en riant, mais t'as raison. Ça n'a rien d'abstrait, l'offrande de sa vie. Ça passe par des choses à Dieu, l'offrande de sa vie à Dieu. Ça passe par des choses extrêmement concrètes. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous.